Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 6. Lumière nouvelle sur Jérusalem. Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi. La gloire du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre. La nuit enveloppe les peuples, mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des nations marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat qui s'est levé sur toi. Regarde bien autour de toi et vois venir tous tes enfants. Ils se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin, on ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonneras de bonheur, tu en seras tout ému. Ton cœur éclatera de joie, car les richesses de la mer arriveront chez toi. Les trésors des nations afflueront jusqu'à toi. Ton pays se couvrira d'une foule de chameaux. Ce seront les caravanes de Madian et d'Épha, arrivant toutes de Saba. Elles apporteront de l'or et de l'encens en chantant les hauts faits du Seigneur. Amen. Oui, dans ce texte, il est question de gloire, de lumière. Et on est dans le dimanche de l'Épiphanie, ça tombe bien. Et lorsqu'on parle de gloire, lorsqu'on parle de lumière, c'est, en tant qu'être humain, c'est synonyme de puissance, synonyme d'abondance, synonyme d'honneur, les paillettes, comme on dit. Quelqu'un qui est au sommet de sa gloire, comme un star de cinéma, comme quelqu'un qui est connu du monde, ou un royaume qui est à son apogée. Voilà dans notre tête quand on parle de gloire. Mais ici, ça n'a rien à voir avec cela. Dans les faits, lorsque les premiers rapatriés reviennent à Jérusalem, dans ce contexte, il n'y avait que des ruines à Jérusalem. Et ce n'est qu'en 537 avant Jésus-Christ que l'autel a été dégagé, l'autel du temple qui a été détruit. Ce n'est qu'à ce moment que l'autel a été dégagé des ruines du temple, et ce n'est qu'après que le culte reprend tout doucement. Et entre-temps, il n'y avait pas culte. Ils faisaient leur culte sans les murs du temple. Mais tout de même, la condition sine qua non est remplie, c'est-à-dire l'autel. Quand l'autel de Dieu est là, dans l'Ancien Testament, on peut faire un culte. La restauration de l'autel permettait de réaliser les différents sacrifices selon la loi juive. Alors pour eux, cela c'était déjà une grande victoire de pouvoir redécouvrir l'autel. Car à partir du moment que les rituels de sacrifice reprennent à Jérusalem, cela signifie quoi? Cela signifie la présence de Dieu. Quand il y a le sacrifice, Dieu est présent au milieu de son peuple. Et cette présence est retrouvée. Et c'est ça qui est chanté ici. Ici, c'est un chant de gloire que nous pouvons redécouvrir, cette présence de Dieu. Or, il n'y avait que des ruines autour. Et il faut se rappeler que lors de la réforme deutéronomique orchestrée par le roi Josias, voilà ce qui est dit, tout culte doit être fait à Jérusalem. C'est-à-dire, il n'était plus permis, à partir du temps de Josias, de faire des sacrifices sur les hauts lieux. Tout le monde pouvait faire ça chez eux. Mais cette initiative a été prise par le roi Josias pour éradiquer toute forme de syncrétisme. Alors on comprend mieux maintenant le sens de la parole du prophète au verset 4 à 6. Il dit ici, si je reprends ces versets-là, « Regarde bien autour de toi et vois venir tous tes enfants, ils se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin, on ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonneras de bonheur, tu en seras tout ému. Ton cœur éclatera de joie, car les richesses de la mer arriveront chez toi, les trésors des nations. Ton pays se couvrira d'une foule de chameaux, etc., etc. On peut dire que la vie de Jérusalem reprenait tout doucement. La vie à Jérusalem dépendait du sacerdoce des prêtres. Sans le sacerdoce des prêtres, Jérusalem n'existe pas. Car les pèlerinages reprennent, les nations recommencent à venir à Jérusalem, justement pour le sacrifice. La ville morte devient une ville vivante à cause de la foule et du monde qui venait. Mais il n'y avait pas encore le temple, mais la vie reprenait le dessus. Et par conséquent, la gloire de Jérusalem, annoncée par le prophète, ne se situe plus dans les architectures du temple de la ville. Avant, les Juifs étaient si orgueilleux de voir un temple magnifique au temps de Salomon, qu'ils avaient complètement oublié ce qui rendait la gloire de Jérusalem, c'était la présence de Dieu et non l'architecture du temple. Ils avaient oublié ce point essentiel. Ils avaient oublié que c'est le sacerdoce des prêtres qui est le plus important et non les beaux bâtiments. Nous pourrions dire, mais où y a-t-il de gloire ? Où y a-t-il de lumière au milieu de ces ruines, dans ce texte? Est-ce que le prophète n'exagère-t-il pas dans ses propos? Est-ce que l'existence de l'autel suffirait-il? Oui. Et je vous invite à lire dans Exode 20 pour nous éclaircir encore un peu plus. Exode 20, versets 22 à 26. Au nom de Jésus, la loi concernant l'autel des sacrifices. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu transmettras de ma part aux Israélites. Vous l'avez vu, c'est du haut du ciel que je me suis adressé à vous. Vous ne vous fabriquerez pas des idoles en argent ou en or pour adorer d'autres dieux à côté de moi. Vous me construirez un autel de terre sur lequel vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres et vos bœufs en sacrifice complet et en sacrifice de communion. Et moi, c'est là que je veux en venir, je viendrai vous bénir en tout endroit où je manifesterai ma présence. Et si vous me construisez un autel de pierre, ne le faites pas en pierre de taille, car en taillant les pierres au ciseau, vous les rendrez impropres à un usage sacré. Vous ne me construirez pas un autel auquel on accède par des marches, afin que l'on aperçoive pas d'en bas la nudité de celui qui m'entrerait. » Ici, ce qui est important, ce qui est à retenir dans ce texte que je viens de lire, c'est que Dieu vient là où on offre un sacrifice sur un autel. C'est Dieu qui vient, c'est Dieu qui descend. Et ce verbe « venir », ce n'est pas juste « venir » comme ça, mais « venir pour apporter une bénédiction » parce que son nom est évoqué. Voilà. Quand on évoque le nom de Dieu, sa présence se manifeste et cette manifestation se traduit en bénédiction. C'est cette présence de Yahvé qui assure la gloire de Jérusalem et non le temple avec l'or, avec les marbres et tout ce qui le composait. Sa lumière attire les nations, la lumière de Dieu, à se déplacer vers Jérusalem. Ce n'est plus Jérusalem qui attire le monde pour aller voir et admirer, par exemple, les sagesses de Salomon à l'époque. On parlait ici de la reine de Saba qui venait en Israël juste pour admirer le roi, mais cette fois-ci pour contempler la face de Dieu. Ce n'est plus le roi qui attire, ce n'est plus le temple qui attire, c'est la face de Dieu. Et c'est cette situation post-exilique était un peu, on va dire, un retour à la source. Bien avant la construction du temple, rappelez-vous, avant le temple, il n'y avait que la tabernacle, la tente de la rencontre, où les gens venaient autour de la tente pour entendre la parole de Dieu. Et lorsque la nuée épaisse descendait sur le tabernacle, tout le monde venait à plat ventre pour écouter et pour reconquérir le cœur d'Israël. Ce n'est pas pour rien qu'Israël ait reçu un titre spécifique. Voilà ce que Dieu leur dit. « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Telles sont les paroles que tu diras aux fils d'Israël. Exode 19, 6. Ce qu'Israël ne sut pas, c'est que s'il a été mis à part, si Israël a été mis à part, c'est pour être en sacerdoce pour toutes les nations. En fait, l'alliance que Dieu a conclue avec Israël s'explique comme ceci. Yahvé a instauré les prêtres pour intercéder pour le peuple, Israël. Et ensuite, Israël a été choisi pour être le prêtre du monde entier. Car telle est la promesse de Dieu, que Dieu a donnée à Abraham depuis le début de son élection. Il disait, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Genèse chapitre 12, verset 3. Voilà ce qui est du contexte. Pour nous aujourd'hui, dans le texte, on peut comprendre entre les lignes que la gloire annoncée par le prophète sera une gloire inégalée. De quoi parle-t-il? Puisque le temple, après l'exil, n'a jamais été terminé. Même si le prophète Haggai et le prophète Malachi ont pesé de tout leur poids pour faire avancer les travaux, le temple n'a jamais été reconstruit dans sa splendeur. Ah donc, qu'est-ce que le prophète parle alors ici? En fait, il parle d'un engouement de toutes les nations qui voudraient venir à Jérusalem, non pas cette fois-ci pour admirer le temple, mais vraiment pour voir la gloire de Dieu. Oui, chers amis, c'est cela la foi. La foi, c'est voir la gloire de Dieu à travers les ruines et les décombres. Est-ce que tu vois la gloire de Dieu à travers les ruines et les décombres? Quand vous regardez ce qui se passe autour du mur de lamentation en Israël aujourd'hui, ce mur de lamentation qui n'est autre que la partie inférieure du mur construit par Hérode le Grand, il est vrai qu'il y a beaucoup de Juifs qui viennent chaque année pour pleurer. Ils viennent là pour pleurer en faisant ce geste-là. Pour pleurer en souvenir du temple qui a été détruit. Ils évoquent leur nostalgie du lieu saint. Et il y a même un courant extrémiste en Israël qui aimerait revenir pour reconstruire ce temple. Mais avec le temps, cela a beaucoup évolué en Israël. Il y a même des personnes qui, aujourd'hui, si vous voyez dans des reportages, qui insère des bouts de papier avec des prières inscrites dedans, entre les pierres, sur ce mur de lamentation d'Israël. Paraît-il, ce sont des prières des gens qui se disent, voilà, comme si on voyait une lettre à la poste et on mettait ça entre les pierres à Jérusalem. Ça se fait aujourd'hui, ça, en Israël. Et maintenant même, il y a même des fêtes juives. Des centaines de personnes qui viennent devant ce mur de lamentation juste pour danser, pour faire la fête devant ce mur lors des jours de sabbat. Beaucoup de diasporas juives qui viennent des États-Unis, d'Europe, du monde entier, qui viennent en Israël devant le mur de lamentation aujourd'hui, qui ont choisi de célébrer le bar mitzvah de leur fils juste devant ce mur de lamentation. Tout cela, c'est pour vous dire que le mur qui est censé de rappeler la douleur de ce peuple est devenu un lieu de réjouissance. Ce lieu de lamentation devient un lieu de joie aujourd'hui en Israël. Et cela me fait penser à la parole que Jésus avait annoncée lorsqu'il s'est identifié à ce temple. Il l'a déjà vu en vision, sa destruction définitive. Rappelez-vous de ce qu'il a dit. « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours, je le relèverai. » Jean chapitre 12, verset, chapitre 2, verset 19. Mais en même temps, il annonçait la prophétie que le temple va être détruit. Mais derrière cette destruction-là, il annonce une grande consolation bien meilleure. C'est-à-dire, puisque sa mort va venir, son tombeau, le tombeau du Christ, qui fut une immense tristesse pour les disciples. Mais par la suite, cela devenait la raison de joie pour le monde entier. La mort de Jésus devient une source de joie. La croix du Christ et sa mort deviennent le rayonnement de notre foi. Et nous sommes fiers de porter cette croix, même si c'est la croix de la honte. C'est là que Dieu nous a sauvés et c'est notre fierté même en tant que chrétiens. Et dans l'évangile de Jean, Jésus utilise même le verbe « glorifier » en invoquant sa mort lorsqu'il s'est adressé au Père. Voici ce que Jésus avait dit. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie. » Là, il était en train de parler de sa mort. « Glorifie ton Fils. » Où ça ? À la croix. Et chez Jean, on parle même d'élévation quand il parle de la crucifixion. Dieu a élevé son Fils à la croix, mais pas à sa droite. Quelle drôle d'élévation, quelle drôle de gloire. Mais c'est ça la gloire de Dieu voilée qu'il faut révéler au monde. Cette élévation a été faite par son abaissement, comme le dit l'apôtre Paul. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. C'est là que Jésus a remporté la bataille. C'est là que Jésus a été élevé à sa place en tant que Fils de Dieu. Voilà le message d'espoir pour le monde aujourd'hui. Dans le monde où nous vivons, ce texte d'aujourd'hui, on a besoin de ça. Car là où on pense qu'il n'y a que la mort, il y a l'espoir. Là où il n'y a que le désespoir, la lumière de Dieu ressurgit du fond du tombeau du Fils de Dieu. Et nous serions un peu comme Marie de Magdala, qui a pleuré de tout son corps en voyant le tombeau vide. Quelqu'un a volé le corps de mon maître. Mais après, ses larmes ont changé en joie immense. Toi aussi, veux-tu être comme Marie de Magdala, après avoir tellement pleuré devant le tombeau du Christ, serais-tu prêt à être porteur de la bonne nouvelle pour toutes les nations ? Amen.